David fait une prière dans le psaume 86 au verset 11, une prière que l'on devrait certainement faire souvent. Je ne sais pas si vous la faites cette prière, mais c'est une prière que l'on devrait faire. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans la fidélité, et c'est la deuxième phrase de ce verset qui nous intéresse. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je ne sais pas si ça fait partie de vos prières, mais je peux vous assurer que c'est une bonne prière. Quand elle est faite avec le cœur, Seigneur, enseigne-moi la crainte de ton nom. Nous avons entendu un don spirituel qui nous rappelait que Dieu ne prendra que ceux qui obéissent. Vous savez, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, il est justement rappelé cela. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 5, il est constamment rappelé que le Seigneur, il va revenir et il nous indique quelle est la catégorie de personnes qu'il prendra. Il ne prendra pas telle ou telle dénomination, il prendra les gens qui sont stipulés dans cette affaire. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Vous savez, il y a la grâce et on ne peut même pas la calculer. Mais aussi, il y aura la colère et le jugement. Et ça, je ne sais pas si les chrétiens, ils en sont bien conscients. Vous croyez à la grâce de Dieu? Vous croyez que le jugement de Dieu viendra sur tous ceux... le jugement, il viendra sur tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Et regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, regardez bien, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Et ils aiment Dieu. C'est un paradoxe, c'est une frustration, c'est un drame dans l'Église. Dans l'Église en général, dans le corps de Christ, je ne parle même pas des assemblées de Dieu, je parle dans le corps de Christ en général. C'est un drame terrible que des gens aiment Dieu, qu'ils soient sortis des ténèbres et qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a pas que l'amour de Dieu, il y a aussi la crainte de Dieu. Et si nous voulons faire partie de ceux qui obéiront, si nous voulons terminer la course dans l'obéissance, il faut que nous comprenions une chose, c'est que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu parce que nous avons besoin d'amour. On en a continuellement besoin, déjà de la part des frères et sœurs, mais on en a besoin de la part de Dieu. Et si vous en manquez, mais demandez à Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu peut presser un cœur, remplir un cœur? Mais bien sûr, et souvent on est en vrac parce qu'on ne s'est pas demandé, on attend des autres, ce qui n'est pas forcément tout le temps mauvais, mais on ne reçoit pas de Dieu tout ce qu'il a à nous donner. Paul le dit, mais j'ai obtenu miséricorde, pourtant il était loin lui aussi, avant d'être l'apôtre Paul. Et c'est un sujet qu'on n'ose pas aborder, parce que c'est un sujet qui nous amène automatiquement à aborder des situations réelles. Ça fait qu'il y a des gens qui sont coincés. Alors il y a des pasteurs qui ne veulent plus aborder certains sujets parce qu'ils savent très bien que ces sujets vont heurter les gens, alors que ces gens s'y sont heurtés, c'est qu'en vérité, ils sont déjà perdus. C'est pas compliqué. Ne jouons pas les hypocrites. Toute la Bible nous enseigne à travailler à notre salut. Regardez un petit peu à l'avant. Des versets, je vais vous en citer quelques-uns, on ne va pas tous les lire, je vous lis celui-ci, parce que je pense que c'est bien. Regardez, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, il y a plein de versets, c'est infini. Si vous les recensez avec une concordance, vous allez être étonné le nombre de versets qui nous parlent de développer la crainte de l'Éternel. La crainte, ce n'est pas la peur, c'est le contraire justement. La crainte de l'Éternel, c'est le respect. Une fois, j'ai prêché toute une prédication sur la crainte de l'Éternel, et en sortant, il y a une sœur qui m'a dit, « Monsieur Gauche, c'est pas bien la peur de Dieu. » Elle n'avait rien compris. Alors que c'est l'inverse. Quand vous avez peur de Dieu, vous vous éloignez de lui. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, vous vous approchez de lui. C'est biblique ce que je vous dis, croyez-moi. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ce que je vous dis, ce n'est pas le fruit de ma réflexion. C'est l'analyse de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec joie et amour. » C'est comme ça que vous avez dans votre Bible? Non? Comment vous avez dans votre Bible? « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Non seulement quand vous êtes à l'église, mais quand vous êtes ailleurs, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il ne fallait pas, il faut pas avoir du respect que quand on est avec le pasteur. Vous avez vu? Non seulement comment ma présence, mais bien plus encore quand, maintenant que je suis absent. Et il y a des gens qui sont différents à l'église à l'extérieur. Ça vous montre un petit peu la duplicité des cœurs. C'est un sujet que l'on doit aborder. Moi, c'est un sujet qui me travaille parce que je sais que le jour du Seigneur avance, arrive, et que beaucoup de chrétiens n'obéissent pas. Alors, ils sont sortis du monde, ils sont sortis de l'Égypte. Je pense à l'Égypte parce que je pense aux Hébreux qui sont sortis de l'Égypte. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mis 30 ans à comprendre certaines choses. Pas obéir, à comprendre la façon dont Dieu, la pédagogie, la façon dont Dieu s'y prend pour nous amener à le connaître. Quand vous regardez le livre de l'Exode, c'est un livre que vous pouvez lire et relire régulièrement. Moi, je le fais en ce moment et je peux vous dire que Dieu m'éclaire. Bon, vous connaissez l'histoire. Dieu, au bout de 400 ans où le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, décide de les faire sortir. Il utilise un homme qui a été formé pendant plus de 40 ans dans le désert, Moïse. Ils sortent d'Égypte à main forte, à bras étendus. Ils ont vu des expériences en veux-tu, en voilà. Ils ont même vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont fait des expériences qui prouvaient la puissance de Dieu. Ils sortent de l'Égypte, ils voient la puissance de Dieu, ils composent des cantiques, ils chantent. Ça, pour chanter, ce n'est pas trop difficile. Ils chantent et puis Dieu va les éprouver. Eux, ils s'imaginaient que d'une seconde à l'autre, ils allaient passer de l'Égypte au pays de Canaan et vivre dans le lait, le miel, etc. Mais regardez, dans Exode au chapitre 20, il faut comprendre, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent? Parce qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils veulent la bénédiction. Ça, c'est pas interdit. Et c'est même bien d'y croire. Croyez-y à la bénédiction. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu veut. Vous avez vu toutes les fois où Dieu est intervenu. Par exemple, quand il y avait de l'eau, Dieu les amène. Ils veulent de l'eau. C'est bien de vouloir de l'eau. Est-ce qu'ils avaient besoin d'eau? Oui, ils avaient besoin d'eau. Le résultat, c'est que quand ils arrivent à la source, l'eau, elle est comment? Elle est amère. Est-ce que Dieu savait que l'eau était amère? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu, dans sa toute-puissance, qu'on élève sans cesse, est-ce que Dieu n'aurait pas pu transformer l'eau avant que le peuple arrive? Est-ce que Dieu pouvait le faire? C'est clair. Mais Dieu, justement, a peut-être fait l'inverse. Il a permis que l'eau soit amère. Et il les a éprouvés. Et avant qu'ils n'entrent dans les bénédictions, il fallait qu'ils développent cette fameuse crainte. Regardez, Exode chapitre 20, verset 20. Il y a plein de versets, j'ai pris celui-là, parmi tant d'autres. Regardez bien ce qui est écrit, parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Ah, c'est sûr que ce n'est pas l'expression qu'on aime le plus. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez, qu'est-ce qui est écrit? Sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. La crainte, ça nous empêche de pécher. J'ai lu ce témoignage dernièrement de ce pasteur qui a été visiter un autre pasteur célèbre en prison. Je l'ai dit deux ou trois fois déjà, mais c'est bien. Et ce pasteur avait été emprisonné pour adultère et pour détournement de fonds. Et le pasteur, bien sûr, le jeune pasteur va le trouver en prison. Il est bien sûr malheureux. Mais il lui dit, mais comment, depuis quand est-ce que tu t'es détourné de l'amour de Dieu? Et le pasteur lui a répondu un truc, mais super bien. Mais je ne me suis jamais détourné de l'amour de Dieu. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu la crainte de Dieu. Il a été honnête. Et quand vous lisez un texte comme celui-ci, vous voyez bien qu'avant qu'il ne découvre le lait et le miel, Dieu voulait leur enseigner la crainte de l'Éternel afin qu'ils ne pêchent pas. Le résultat, il est vite vu, au verset 21, le peuple restait dans l'éloignement, ils n'avaient pas la crainte, ils avaient peur de Dieu, donc ils s'éloignent de Dieu, et Moïse, lui, s'approche de la nuée. Vous comprenez? Donc, la crainte de Dieu fait que vous vous approcherez de Dieu. Pourquoi il y a tant de gens qui n'ont pas leur culte personnel, qui ne s'approchent pas de Dieu? Parce que je l'ai dit et je l'ai redit, il y a des gens qui vont à l'église, ils ne connaissent pas Dieu, je peux vous le dire. Ils servent Dieu, il y a même des gens qui prêchent. Écoutez, c'est lamentable. Il y a des gens qui prêchent, moi je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la parole, ils connaissent l'histoire de David et Goliath, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et nous devons obéir. Parce que le but de cette affaire, c'est d'obéir, et pas d'obéir pour obéir. Il faut que l'obéissance soit joyeuse. Il faut que ce soit une obéissance de cœur, comme Paul dit aux Romains. Il dit, mais vous avez obéi de cœur, parce que l'obéissance restrictive, l'obéissance obligée, c'est de la religiosité. Et ça donne un témoignage déplorable. L'obéissance, ça doit être une véritable bénédiction. Et nous devons nous conduire avec respect le temps de notre séjour sur la terre. Combien de temps il nous reste à vivre? Vous le savez combien de temps il vous reste? Même les plus jeunes, même s'il vous reste 60 ans à vivre, c'est rien. C'est une bricole aux yeux de l'éternité. Ne vous imaginez pas parce que vous êtes jeune que vous avez 60 ans devant vous. Bon, je pense que ça ne veut rien dire, 60 ans, 20 ans, 6 ans, 6 secondes, ça ne veut absolument rien dire. Alors, quand vous voyez une chose, c'est que Dieu veut qu'on s'approche de lui. On va prendre deux ou trois textes pour que vous compreniez le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu veut qu'il connaisse sa parole, la crainte, avant d'aller dans la promesse. Vous avez envie de découvrir des promesses de Dieu? Nous, on obsède les gens, on les conditionne, on les manipule, on les trompe, voilà, on les trompe, en leur disant, mais si tu fais ci, Dieu va te bénir. Et c'est vrai en plus que Dieu veut bénir. Mais il y a des choses à apprendre avant. Regardez, Exode chapitre 19, verset 24. Je synthétise le livre de l'Exode pour que vous compreniez en vérité ce que Dieu voulait. Donc, il refuse de s'approcher de Dieu, donc Dieu désigne à Moïse et à Aaron pour être les porte-parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Exode 19, verset 24. L'Éternel dit, va, par Moïse, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, c'est archi important. On ne le voit pas, moi j'ai mis des années à le comprendre. Dieu dit à Moïse, écoute, tu vas monter sur la montagne avec Aaron. Et là, je vous révélerai ce que vous devrez dire au peuple. Bon. Quand vous tournez les pages, qui c'est qu'il y a sur la montagne? Qui c'est qu'il y a? Il n'y a que Moïse. Regarde, écoutez bien. Ça, c'est un péché grave de ne pas s'approcher de Dieu pour les pasteurs. Et ce péché, il a été articulé, conditionné par la mentalité cléricale. Écoutez, je vais vous choquer peut-être, mais ce n'est pas grave. Par la mentalité cléricale de l'Église catholique qui s'est quand même infiltrée dans nos assemblées parce que nous sommes d'origine tous catholiques. Et nous avons, qu'on le veuille ou non, la mentalité du clergé où le prêtre fait tout. Il fait tout. Et s'il ne fait pas tout, il est critiqué, etc. Bon. Un homme de Dieu, il doit s'attacher à la parole, il doit chercher Dieu. Bien sûr qu'il doit faire des visites. J'étais voir Monsieur Delabre, la semaine dernière, j'ai fait deux ou trois visites. Mais entre faire deux ou trois visites et passer son temps à courir à droite et à gauche, tu monteras avec Aaron. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Aaron qui est redescendu. Monsieur n'a pas eu la patience d'attendre que Dieu parle. C'est encore, je vais dire, c'est un demi-problème. Mais le problème, c'est que comme tout le peuple a patienté, et qu'est-ce qu'il fait ce Moïse? Qu'est-ce qu'il fait? Et ils vont avoir le culot de dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Et lui, il aurait dû dire, mais non, il est hors de question. Moïse, il cherche Dieu, il va redescendre, il va nous donner la parole. Et lui, il cède, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il a la crainte, il a la peur des hommes. Et quand on a la peur des hommes, on cède à leurs sollicitations. Et Aaron va céder, il va demander les bijoux, etc. On va faire un dieu. Ils vont faire un dieu à leur image. Ils vont faire un veau d'or pour vous dire que même s'ils étaient sortis d'Égypte et qu'ils étaient le peuple élu, laissez-moi vous dire que malgré le fait qu'ils soient sauvés, ils avaient gardé la mentalité de l'Égypte. Et ils vont faire un veau d'or et ils vont appeler ce veau Dieu. Ils vont l'appeler Dieu. Leur Dieu qui nous a délivrés. Ils vont se faire un Dieu à leur image. Et en vérité, c'est ce qui se passe. C'est que les chrétiens veulent un Dieu à leur image. Et je disais l'autre jour, mardi soir, je disais quelque chose qui va choquer, je le sais, ça va choquer, mais je pense que c'est bien. Vous savez, quand il est dit que l'homme fera du Dieu incorruptible un Dieu à image d'homme. Écoutez ce que je vous dis, je l'ai réfléchi, c'est pas charnel, c'est sérieux. C'est parce que moi je veux que vous soyez prêts lorsque Jésus va revenir. Quand on appelle Dieu papa, moi laissez-moi vous dire qu'on a fait du Dieu incorruptible un Dieu humain. On a fait un veau d'or. Vous le comprenez pas. Mes frères et sœurs, Dieu, il est saint. Et il doit être respecté. Pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, mais ne mangez pas du chewing-gum pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais c'est du légalisme. Mes frères et sœurs, vous iriez demain prendre rendez-vous avec une notoriété, quelqu'un notable que vous aimez beaucoup, que vous respectez beaucoup, quelqu'un de très élevé dans la société, que vous admirez. Vous iriez avec le chewing-gum? Sérieusement? Vous devriez rencontrer cette personne que vous admirez plus que tout. Vous iriez avec le chewing-gum débraillé avec demi-heure de retard? Répondez-moi, sérieusement. Vous iriez débraillé? Non. Les gens, ils arrivent, mais parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, il est là. Vous le croyez que Dieu est là? Il est là par son esprit. Et moi, ce qui me réjouit dans l'église en ce moment, c'est justement que je suis en train de voir plusieurs frères, des frères, des nouveaux, comme ce couple-là qui vont se marier. Ils me disent, voilà, notre vie, elle n'est pas en règle, on veut mettre notre vie en règle avec Dieu. Hier, il y avait quelqu'un qui nous disait, mais moi, j'ai été convaincu de péché dimanche dernier, pendant la Sainte-Cène. Mais moi, ça me fait du bien. Ça prouve que le Saint-Esprit agit dans l'église. Mais quand les gens vivent dans le péché et qu'ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont tellement éloignés, c'est comme si vous êtes à 50 mètres d'un feu, ne vous attendez pas à ce que ce feu vous réchauffe. Même si vous le voyez, même si vous savez ce que c'est, même si vous l'avez déjà expérimenté, ça ne servira à rien. Et il y a des gens qui viennent à l'église, alors ils sont un peu réchauffés, parce que bon, la grâce de Dieu fait que nous sommes encouragés par une prédication. Mais le soir est arrivé, le lundi matin, n'en parlons pas, et les gens, ils se retrouvent toujours loin de Dieu. Ils ont la crainte des hommes, qu'est-ce que les hommes vont dire, qu'est-ce que les hommes vont penser. Mes frères et sœurs, ce que les gens disent, bon, c'est peut-être intéressant, mais est-ce que ce n'est pas intéressant ce que Dieu pense? Ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de ta vie, ce que Dieu pense de ton éloignement. Et quand vous regardez, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et on voit la patience de Dieu. Combien de fois ils l'ont tenté? Ils ont murmuré, ils étaient tout le temps en colère contre Moïse, tout le temps en colère contre ce serviteur. Alors c'est vrai qu'il y a des serviteurs, on a le droit de les évaluer. Je pense qu'il faut le faire, moi on le fait ici. On me dit, quand je dis un truc qui est peut-être pas à propos, ça c'est charnel, ça c'est humain, mais c'est bien, continuer. Parce qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu et rien d'autre. Et quand vous voyez ces choses, qu'elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous ne tombions pas dans la même désobéissance, c'est écrit, après avoir entendu, je vous résume parce que le temps passe, après avoir entendu, qui sont ceux qui se révoltèrent après avoir désobéi. Et ils sont morts dans le désert, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis en enfer. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses. Il y a plein de chrétiens qui vont se retrouver, excusez-moi l'expression, mais nus devant Dieu, parce qu'ils seront sauvés, mais ils n'auront pas pris le soin de développer la crainte. Et aujourd'hui, on présente à l'Église en général, un faux Dieu. Un Dieu qui passe sur tout, et j'y reviens, ne croyez pas que je fais une fixation, le fait de l'appeler papa a rabaissé tellement le niveau qu'on a un Dieu qui passe sur tout. Je peux faire ce que je veux, si je vais dans le péché, c'est pas grave, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais je peux vous dire, vous l'avez entendu, que n'entreront dans le royaume de cieux ceux qui ne se souillent pas. Et si j'ai commis un péché, eh bien je le règle. J'ai menti à Christine, eh bien je vais lui demander pardon. J'attends pas 2 mois, 3 mois, parce que ça aussi, moi, ça m'effraie quand je vois le nombre de chrétiens qui attendent. Oui, je le ferai, M. Gaud, je le ferai, j'ai pas le temps. T'as pas le temps d'obéir à Dieu? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, il vaudrait mieux obéir. Parce que si nous ne le faisons pas, nous endurcirons notre cœur. Et si vous lisez les premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, il est résumé ce qui s'est passé pendant le livre de l'Exode. Ils n'ont pas pris au sérieux ces choses, ils n'ont pas développé la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas voulu s'approcher de Dieu. En tous les cas, si vous devez le faire peut-être moins que moi, moi je dois le faire. Et c'est vrai que moi je comprends. Moi je comprends, et là je sais, parce que vous savez, il y a des centaines de pasteurs qui m'écoutent. Et je sais très bien qu'il y a des pasteurs qui sont sous pression. On les oblige, moi je le sais, je l'ai vécu ça. Il m'a fallu l'AVC pour en être délivré. Que les gens arrêtent. Et ce n'était pas méchant, ça partait d'une bonne intention. Et Monsieur Gau, il faut aller voir Madame Untel. Et Monsieur Gau, il faut... Tous les jours. Hier, si j'avais écouté tout ce qu'on m'a demandé, je n'aurais pas été à la maison une minute. Et j'aurais servi Dieu. Et je n'aurais pas été prêt à vous apporter ce message. Parce que si Dieu m'a mis à cœur ce message, c'est parce que vous et moi, nous devons améliorer cette vertu, développer l'amour de Dieu dans notre cœur. Ça, c'est évident. Mais ça, il n'y a pas trop de problèmes. Les gens, ça, ils... Quoique c'est souvent sentimental. Mais les gens doivent développer l'amour de Dieu et la crainte de l'Éternel. Mais prenez une concordance et vous allez être affolés de voir la quantité de textes qui nous prouvent que lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on ne pêche pas. C'est écrit. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, vous vous éloignez du mal. Il y a des chrétiens, ils sont malheureux. Ils aiment Dieu et le soir, ils sont capables de se retrouver devant un site pornographique. Et pourtant, ils aiment Dieu et ils sont dans une... C'est sûr qu'ils ne s'endorment pas en paix, ça c'est clair, heureusement. Mais je peux vous dire que si vous développez la crainte de l'Éternel, vous vous éloignerez du mal. C'est imparable. Le temps me manque pour vous parler des hommes, des femmes, des textes bibliques qui indiquent que lorsque vous aimez Dieu, lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous vous éloignez du mal. La crainte de l'Éternel, en plus, c'est le départ. Il est dit que c'est le commencement de la sagesse. C'est un respect que l'on a. Alors je parle, c'est vrai, moi je suis affligé, je vous le dis franchement. Cette semaine, j'ai vraiment été affligé, j'ai tout déposé. Et ça va bien, ne vous inquiétez pas. Ça va bien. Mais quand je vois à quelle vitesse l'apostasie rentre dans les églises, moi j'ai peur pour les chrétiens. Mais j'ai peur, c'est une façon de parler. Je m'inquiète pour les chrétiens. J'ai du souci pour les églises. Parce que je vois bien qu'il y a plein de chrétiens qui ne sont pas prêts. Et on leur dit que ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Si vous péchez, si vous vivez dans le péché, je ne sais pas moi, si vous mentez régulièrement, enfin quand je dis régulièrement, parce qu'il faut être honnête, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. C'est vrai ou c'est pas vrai? On commet tous un péché involontairement, mais moi je fais quand même la différence entre un péché involontaire que je règle. Ça, c'est sûr que s'il est involontaire, je vais le régler. Et puis le chrétien qui vit volontairement dans le péché. Et puis ça va vite. Vous savez, on est fort. Nous les pasteurs, on est fort pour expliquer la Bible à notre façon. Et ça, c'est un truc que Dieu n'a pas beaucoup aimé. Mais quand vous regardez la parole de Dieu, par exemple, combien de gens, moi j'ai entendu toute ma vie. Oui, David, il a commis l'adultère, mais Dieu l'a pardonné. J'ai entendu ça. Et Dieu fait grâce. Oui ou non? Moi, ça me fait peur quand j'entends ça. Ah, c'est vrai que c'est merveilleux de connaître le pardon et de croire au pardon toute sa vie. Ça, c'est beau parce que Dieu pardonne inconditionnellement. Il pardonne tout péché et tout blasphème sera pardonné. Mais peut-être que si on en avait développé la crainte de Dieu, on comprendrait les conséquences du péché d'abord. Quand vous voyez, on va lire juste un peu, parce que ça on ne le lit jamais, ce sont des textes qu'on ne lit pas. Les conséquences du péché, alors ça c'est dans le livre de Samuel. Dans 2 Samuel au chapitre 12, Nathan confronte David. David qui est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, quand Dieu parle de David, vraiment ça fait plaisir de voir combien c'est un homme qui accomplira toute la volonté de Dieu. Quand vous voyez comment David aimait la parole, c'est impressionnant quand vous lisez le psaume 119, comment vous voyez la crainte de Dieu dans le cœur de cet homme. Même à un moment donné, il n'a pas veillé, il n'était pas à sa place. Vous savez que quand il devait partir en campagne pour la guerre, parce que c'était un homme de guerre, il est resté à la maison. Vous connaissez cette histoire? C'est des indices qui devraient quand même nous faire réfléchir. Il est resté à la maison. Vous savez, il faut être à sa place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à la maison. Il faut être à sa place. Il faut être là où Dieu nous veut. Il est resté, il est sorti. Il avait perdu sa communion avec Dieu, la preuve, parce qu'il n'était pas en train d'obéir. Il a vu une femme nue en train de se baigner. Il a appelé ses serviteurs. Plutôt que de dire, oh là là, là, c'est pas bon, je m'en vais. comme il avait fait quelques années avant, quand on lui avait quand Joab lui avait conseillé de tuer son Saül, et que quand il est arrivé juste pour couper le manteau, c'était pas un gros problème, je sais pas si c'était un cacharel, mais ça veut dire il a coupé le manteau, et il a eu le cœur qui battait. Il a dit c'est pas bien. Et c'est dommage que là le cœur n'y ait pas battu quand il a vu cette femme. Il l'a fait venir, il a couché avec elle, s'est enchaîné. Une folie, parce que vous savez le péché, c'est rare qu'un péché marche tout seul. Il a fait venir son mari pour faire croire qu'elle était enceinte de lui. Il n'a pas voulu coucher avec elle parce que lui, il estimait qu'il n'avait pas à coucher avec elle. C'était un drôle de gars, Uri. Parce que ses officiers étaient sur le terrain et que lui, il n'allait pas profiter d'un moment de vie intime avec sa femme au détriment des autres. Donc, il n'a pas voulu coucher avec sa femme. David l'a su, il l'a fait tuer. Un an a passé, David a eu un enfant et à partir de là, Dieu est intervenu. Dieu aurait pu intervenir 8 jours après. Est-ce que Dieu aurait pu intervenir 8 jours après? Pourquoi Dieu a attendu un an? Quelqu'un pourrait me le dire? Comment? Oui, il y a tout un tas d'explications. Mais une chose est certaine, c'est que même quand on s'appelle David, on peut s'installer dans la désobéissance. Mais ce qu'il y a, c'est que quand Dieu envoie Nathan qui va au prix de sa vie confronter David qui méritait quoi David? La mort. Il n'y a pas de grâce pour l'adultère. Dans l'Ancien Testament, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce pour l'adultère et pour le meurtre. Pour l'adultère et pour le meurtre, il y a un verdict, c'est la lapidation. Et David qui connaît Dieu, et c'est ça qui est merveilleux dans la grâce, il y avait déjà la grâce, bien sûr, c'est évident dans l'Ancien Testament, il connaît Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous comprenions. David, malgré son impair, sa faute, son péché, mettez le nom que vous voulez, c'est pas grave en vérité. Quand il a été confronté à son péché, 2 Samuel chapitre 12, au verset 7, Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Il est confronté à son péché. Et là, David aurait pu dire à ses gardiens, écoutez-moi, vous me décapitez Nathan. Ça prenait 30 secondes et c'était fini. Et David était bien sûr en vrac. Mais il va réagir. Mais Dieu ne va pas passer. Ce n'est pas parce que c'est David, un homme selon le cœur de Dieu, que Dieu va passer sur le péché. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de passe-droit sur le péché. Il n'y a pas de chouchou dans l'Église du Seigneur. Ça n'existe pas. 2 Samuel chapitre 12, verset 9. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. » Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on devrait lire avant de pécher, si l'envie nous en prenait. « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. » Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hessien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je te ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, regardez bien, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà ce que Dieu attend, cette honnêteté. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria l'Éternel pour l'enfant, et jeûna. Quand vous voyez la suite, regardez, verset 24, c'est important, verset 20. David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et il se prosterne. Vous voyez, il prie, il jeûne, il se prosterne. Verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle, coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de bien-aimé de l'Éternel. Ça veut dire Jéhidja. Mes frères et sœurs, le péché, ça coûte cher. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le pardon, il est pardonné, on le voit, il prie, il jeûne, il console Bathsheba. S'il console Bathsheba, c'est qu'il a été consolé, c'est évident. Oui ou non? Parce qu'on ne peut pas consoler quelqu'un si on n'a pas été consolé, on peut faire semblant de consoler quelqu'un. Mais si on n'a pas été consolé, il est impossible de se consoler. Et mes frères et sœurs, la désobéissance, Et mes frères et sœurs, quand on n'a pas la crainte de Dieu, on pêche. Quand on pêche, il y a des conséquences. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il va perdre, si je ne me trompe pas, 3 fils David. Le petit, qui vient de naître. Sa fille, Tamar, va se faire violer par un de ses demi-frères. Absalom va tuer, comment il s'appelle, Amon, qui a violé sa demi-sœur. Et Absalom, qui se révoltera contre son père, va se faire tuer par un officier de David. Et Achipotel, un des meilleurs conseillers, regardez bien les conséquences. Achipotel, c'est quand même quelqu'un, Achipotel. Il est dit de lui que quand il parlait, c'était comme si c'est Dieu qui parlait. Il va se faire prendre par Absalom, et il va se prendre par un fameux Hushai qui donne des conseils à tort et à travers, et il va se suicider parce qu'il se rend compte que ça va se retourner contre lui. Vous connaissez l'histoire plus ou moins, enfin, je vous le résume, mais c'est quelques chapitres de la Bible qui sont résumés. Et tout ça, parce qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu. Et même si Dieu l'a pardonné, parce que, je le répète, ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Dieu pardonne tout, à condition qu'on dise la vérité. J'ai péché, oui, je vous ai menti, oui, j'ai fait ça de mal, oui, j'ai commis telle erreur, je veux la réparer. Quand c'est fait, Dieu pardonne, et on n'aura plus jamais à y revenir. Vous entendez? Quand on a demandé pardon, on n'aura plus jamais à revenir sur ces choses. C'est oublié, c'est pas moi qui le dis. Mais il faut le régler. La Bible dit que tout sera oublié, que Dieu oublie. Vous croyez que Dieu... Non, mais Dieu oublie. C'est bien sûr, Dieu oublie les péchés quand ils sont mis au pied du calvaire. C'est pour ça l'importance de la Sainte-Seine, d'être sérieux, de tout faire pour que dans une église, on développe l'amour de Dieu. Et combien on a besoin d'affection? Vous n'avez pas besoin d'amour? Où vous le cherchez, l'amour? L'amour, j'ai besoin quand même. Aimez-moi. Est-ce que vous avez besoin d'amour? Jonathan, est-ce que vous êtes aimé de votre femme? Elle est là? Avec quoi dimanche? On n'a pas besoin d'amour, frères et sœurs, sérieusement. Moi, ici, franchement, je me sens super aimé. Merci pour votre affection. Mais je le sais. À tous les cas, vous me le prouvez. Mais je sais que j'ai besoin de l'amour de Dieu. Et de recevoir. Mais je n'ai pas besoin de recevoir que l'amour de Dieu. J'ai besoin que mon cœur soit disposé à la crainte de Dieu. Vous avez vu les Hébreux en 15 jours, ils se sont découragés, ils ont murmuré et ils sont restés plantés dans le désert à cause de ça. Parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils se plaignaient. Et le péché, écoutez-moi, là vous l'avez vu avec moi, le péché, ça ouvre la porte au diable. C'est écrit dans la Bible? C'est écrit combien de fois? Est-ce que ce n'est pas écrit que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Et il ajoute, ne donnez pas accès au diable. Quand Paul parle d'un problème qu'il y a eu dans l'église de Corinthe, ils n'ont pas voulu régler un problème. Il y a un gars qui vit dans le concubinage avec sa belle-mère. Et les anciens, ils n'ont rien dit. Il y a 2 péchés. Et donc Dieu leur dit, mais il faut régler ça. Il faut le régler. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il n'y avait pas que le péché du gars. Il y avait le péché des anciens. L'indifférence au péché, c'est pour ça que quand on doit veiller les uns sur les autres, et si quelqu'un a le péché, il faut l'en parler, avec amour, mais il faut le régler, si on veut que l'Esprit de Dieu agisse dans l'Église. Et dans la deuxième épître, on voit qu'ils se sont... Alors là, ils ont réglé le problème, mais c'est le problème de l'équilibre. Ils ont tellement réglé le problème qu'ils sont devenus durs avec ce gars. Et Dieu dit, mais il faut les pardonner. Il faut le pardonner, il a mis sa vie en règle. Parce que quand quelqu'un obéit, il ne faut pas le punir quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? On a vite fait de punir les gens. Ah, tu as péché. Tu es mis au banc. Pendant 3 ans, ça sera comme ça. Mais le gars, de toute façon, si c'est pas parce que dans 3 ans, c'est pas pour ça qu'il va obéir. Mais un homme peut être dans le péché et 15 jours après être réhabilité. Oui ou non? C'est biblique ce que je vous dis ou c'est pas biblique? Vous avez vu comment Pierre qui avait dit, les autres, ils te renieront. Mais moi, Seigneur Jésus, mais moi, ça risque pas. Le problème, c'est que c'est lui qui a renié, les autres n'ont pas renié. Et qui c'est qui prêche à la Pentecôte? C'est l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu restaure. Il restaure quand il y a véritablement repentance. Mais il n'empêche que le péché, ça ouvre la porte au diable. Et dans l'affaire de Corinthe, je n'ai pas terminé, Paul dit, mais ne donnez pas à Satan l'avantage. Quand on ne pardonne pas, on donne à Satan l'avantage. C'est pour ça que le diable, il fait tout pour qu'il y ait des disputes. Pourquoi il y a tant de foyers qui explosent? Parce qu'il n'y a pas ce pardon. Il faut qu'il y ait le pardon. Le pardon, ça doit être notre respiration. Nous avons un Dieu tout-puissant qui est juste, il est saint. Si je ne fais qu'aimer Dieu, ça n'ira pas. Si j'aime Dieu, je dois développer cette crainte qui me permettra de garder les commandements. Les Hébreux, en dix jours, ils ont décroché. Comparons-le avec un autre Hébreu qui s'appelle Joseph. Joseph, qui a été maltraité par ses frères, tous ses frères, tous. Il n'avait que 17 ans. Il a été amené comme esclave. Et ça a duré combien, cette histoire? Non, 13 ans. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Et il avait 30 ans lorsqu'il est passé devant Pharaon. Ça a duré 13 ans. Ça change de 15 jours. Et pendant 13 ans, il a été éprouvé, testé. Dieu a développé la crainte de Dieu dans son cœur, à tel point que même quand il était à 2000 kilomètres de chez lui, qu'il y avait la femme de Potiphar, certainement plus belle que tout, super habillée, super fringuée, avec des belles robes, moi je suis sûr, et du parfum et tout ce que vous voudrez, elle l'a séduit tous les jours. Et lorsqu'elle a voulu coucher avec, il lui a dit, mais comment ferais-je une telle chose et pécherais-je contre Potiphar? Contre Dieu. Quand on a compris que le péché, avant de toucher quelqu'un, ça affecte Dieu. Est-ce que vous le comprenez, ça? Je mens à M. Ounay. Mais je n'ai pas menti à M. Ounay. J'ai d'abord offensé Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, lorsqu'il voyait un pécheur qui s'approchait de lui pour la guérison, mais en même temps pour le salut, il lui disait, tes péchés sont pardonnés. Et qui est-il? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Eh bien oui, mais Jésus, c'était Dieu. Incarné. Et les pharisiens disent, mais pour qui se prend? Et Jésus va leur répondre, mais qu'est-ce que c'est le plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? C'est quoi le plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? C'est quoi le plus facile? Ben pour nous, le plus facile, c'est de dire, tes péchés sont pardonnés. Mais laissez-moi vous dire que pour Jésus, le plus facile, c'était de faire lever un homme. Parce que pour que les péchés soient pardonnés, il a fallu qu'il meure au calvaire. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous dire que quand Jésus disait « tes péchés sont pardonnés », ce n'était pas des blabla. Pour que Jésus dise « tes péchés sont pardonnés », les vôtres, mon frère, les miens, il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix. Et si la lecture de la parole de Dieu n'amène pas le respect, moi vous savez, là, ces histoires de l'Exode où j'ai vu, vraiment compris, que Dieu voulait d'abord qu'ils aient la crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, je vous le dis, ce n'est pas compliqué. Si nous n'avons que l'amour de Dieu, nous ne tiendrons pas. Il nous faut l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et nous appliquer vraiment. Et cela un peu dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Est-ce qu'on peut le demander, ça? Est-ce qu'on peut le demander à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur? Est-ce qu'on peut faire cette prière? Mais vous croyez qu'elle va plaire à Dieu? Vous croyez que ça peut plaire à Dieu, Seigneur? Apprends-moi la crainte. Mais écoutez, lisez les proverbes, rien que les proverbes. Que les proverbes. Lisez l'Ecclésiaste. Je termine avec cette pensée. Vous savez, pas davantage, je me suis interrogé sur la chute des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Alors la Bible dit, attention, que celui qui est debout, prenne garde. Ne jouons pas les meilleurs et les fanfarons. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais vous savez, un jour, j'étais en train vous savez comment c'est quand on prie, qu'on lit la Bible, on prie, on pense à des situations, on est affligé, on dépose ça et ça revient, et on ça va mieux et puis ça recommence. Bon, vous savez ce que c'est? Oui. Et j'étais en train de prier, j'avais appris qu'un pasteur avait chuté, ça m'avait fait mal au cœur. Et je lisais à cette époque-là l'Ecclésiaste. Regardez avec moi, on termine avec ça, je pense que c'est bien. Dans l'Ecclésiaste, je lisais le chapitre 7, ce jour-là. Dans le chapitre 7 de l'Ecclésiaste, il est parlé au chapitre 7 au verset 26, qu'il y a des gens qui échappent au piège, comme Joseph. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26. C'est pour ça, mes frères, faites attention, ne vous retrouvez pas seul avec une femme, c'est archi important, ça. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la tentation pour comprendre ça. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26. « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle, Et en vérité, c'est au verset 18 que j'avais commencé à comprendre. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Alors on va prier. Mais voyez, mes frères et sœurs, quand on craint Dieu, la crainte de Dieu, je vous donne un autre texte, parce que je sais qu'il faut que je le fasse. J'ai que l'embarras du choix, si je vous donne les textes, on est là jusqu'à minuit. Et je ne me plaisante pas. Regardez dans le psaume 36. Il est parlé, mais lisez, prenez une concordance. Et vous tapez, clac, sur le mot principal, la crainte de Dieu, et vous allez voir que vous en avez pour quelques semaines, croyez-moi, à méditer. Psaume 36, voyez, verset 2. « La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Verset 5, la fin du verset 5. « Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. » Et quand vous lisez, vous êtes continuellement convaincu que c'est la crainte de Dieu qui vous permet de repousser le mal. Fermons nos yeux quelques instants. Mes frères et sœurs, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Nous ne le voyons pas, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, dit la Bible. Il est sur son trône et il veut t'aider ce matin. Il n'est pas là pour juger. Le jugement, c'est pour plus tard. Le jugement, c'est pour tous ceux qui n'auront pas pris au sérieux ces choses, qui n'auront pas développé la crainte de l'Éternel. On a développé l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et on s'est fait pareil, un veau d'or, une image d'un Dieu corruptible, d'un Dieu humain qui passe sur tout. Et c'est archi grave. Alors mes frères et sœurs, si vous voulez être debout, si nous voulons, parce que je me mets avec vous, ne vous inquiétez pas, si nous voulons être debout lorsque Jésus viendra, il faut développer l'amour et la crainte. C'est pas compliqué, en plus c'est pas, j'ai rien inventé. J'ai rien ajouté à la Bible. Je n'ai rien retranché. Et je voudrais qu'on prenne cette sainte scène avec un esprit de victoire. Seigneur, je vais développer ces vertus. En plus, c'est important d'être un chrétien équilibré. Moi, je n'ai pas envie de faire blasphémer les ennemis de Dieu. Moi, j'ai envie, même s'ils sont contre moi, ça m'est égal. Moi, j'ai envie de donner un bon témoignage. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, baptisé par immersion. Si vous êtes dans l'adultère, si vous êtes dans la fornication, si vous êtes dans le péché, je vous en supplie, ne vous levez pas. Ne prenez pas un jugement contre vous-même. Il faut le dire, je pense, de la façon la plus claire qui soit. Mes frères et sœurs, levez-vous à votre place. Prenez le pain et le vin avec joie. Éprouvons-nous nous-mêmes. Prenons une bénédiction, la coupe de bénédiction. C'est une bénédiction, mais ça peut être un jugement. Mes frères et sœurs, levez-vous. Avec amour, devant le Seigneur. C'est pas devant moi, moi je ne vous regarde pas, j'ai les yeux fermés. Si je ne regarde pas qui c'est qui l'apprend ou qui ne l'apprend pas, si vous l'apprenez et que vous êtes dans le péché, signalez-le-moi pour que je puisse vous aider. Mais mes frères et sœurs, on est devant Dieu, c'est sérieux l'Église. Ce n'est pas le club des petits chrétiens de Toulouse, des chrétiens sympas de Toulouse qui sont gentils. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un truc humain. C'est le royaume de Dieu, des hommes et des femmes nés de nouveau, qui sont des sources de bénédiction pour les pécheurs. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vivre ces choses avec beaucoup de respect. C'est toi, Jésus, toi le Seigneur, qui a institué la scène. Nous savons que ça vient du ciel. C'est toi, dans l'éternité, qui a décidé d'instituer la sainte scène pour que nous nous souvenions, oui, que si nos péchés sont pardonnés, tu as vraiment, vraiment payé cher, Seigneur. Pour que nos péchés soient pardonnés, et nous t'en remercions. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.